l'ISF a été transformé en impôt sur la fortune immobilière parce que l'ISF présentait plus d'inconvénients qu'il n'offrait davantage. Il a conduit des gens qui payaient beaucoup d'impôts à partir de France. Donc moi, si on me dit la justice fiscale, c'est de faire en sorte que les riches payent des impôts en France, mais faisons-les venir en France plutôt que de les faire partir. Ça me semble du bon sens.
Et voilà, Édouard Philippe, en mars dernier, le Premier ministre qui essaie de maîtriser la bête noire des gilets jaunes, l'impôt sur la fortune, avec l'argument du bon sens. Évidemment, le bon sens, c'est un peu court pour argumenter. Donc cette semaine, tout le monde attendait avec beaucoup d'impatience la première évaluation, celle qui allait nous dire si l'exécutif a eu tort ou raison de supprimer l'ISF. Eh bien, nous avons tous été un peu déçus. Principale conclusion du comité d'évaluation, il est trop tôt pour répondre. Ce n'est pas surprenant, mais oui, c'est décevant. Alors quand même, le rapport est intéressant. On y trouve des pistes, des signaux faibles. Est-ce que la suppression de l'ISF a fait revenir des exilés fiscaux ? Apparemment non. Est-ce que ça a dissuadé certains contribuables de partir ? Là, c'est possible. Est-ce que c'est un cadeau aux riches. Alors là, il faut arrêter tout de suite les débats au dîner sur une lapalissade. La réponse avec les chiffres, c'est bien sûr oui. Et enfin, la question à 4,5 milliards d'euros, est-ce que l'argent est allé s'investir dans l'économie réelle ? C'était le but, dans les usines, dans la recherche. Et bien c'est là que les experts nous donnent rendez-vous même jour, même heure, dans 2 ans, à l'automne 2021. Donc 6 mois avant la présidentielle, espérons que l'on sache à ce moment-là de quel côté est le bon sens.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Bensaï.
Bienvenue dans le Mag Écho, nous sommes tous ensemble jusqu'à 10h avec Coy Nguyen, le réalisateur, Valentin Pérez, l'attaché de production et Mathias Alléon à la technique. Et puis autour de la table, les débatteurs sont bien sûr déjà là avec leurs petits papiers, leurs études toutes fraîches, leurs chiffres. Bonjour Emmanuel Le Chypre de BFM Business. Et bonjour Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques.
Bonjour.
L'ISF, un petit mot ?
Oui,
vous avez été déçu ou pas ?
Non, bah pas surpris. À court terme, c'est normal. Emmanuel Macron mérite le qualificatif de président des riches. Il a redonné pratiquement 5 milliards d'euros aux riches. À moyen terme, on ne saura jamais si la baisse de l'ISF, elle a joué sur l'investissement. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs dividendes en plus ? Il y a trop de variables qui jouent en économie sur les décisions d'investissement, de localisation. On ne saura jamais si l'ISF a plus ou moins favorisé l'économie française. Il y a une seule chose dont on est sûr, et tout de suite, vous l'avez dit Alexandra, on a donné 5 milliards d'argent aux plus riches.
Emmanuel, c'est un peu déprimant, on ne saura jamais, mais c'est vrai.
Le problème, c'est que le temps de la politique, c'est pas celui de la statistique. Là, les derniers chiffres, c'est 2017. Emmanuel Macron, il est arrivé. Aujourd'hui, il y a quand même 2-3 petits signaux faibles. Il y a quand même 2 fois moins de riches qui sont partis ces dernières années que pendant les années noires de Jean-Marc Ayrault 2013-2014. Et quand vous en avez à peu près 300 alors qu'on en avait 600 quasiment, vous pouvez dire qu'en valeur absolue c'est pas grand-chose, mais c'est quand même
Les années noires, c'est 0,1% des contribuables, c'est rien du tout.
Mais c'est pas le problème de la masse, c'est pas le problème de la masse,
c'est
une élite. C'est une élite qui part et c'est une élite qui partait, qui n'était pas l'élite des retraités milliardaires, c'était des jeunes qui n'avaient que quelques millions qui ont fui la France à l'époque.
C'est pas évident. Même Rex Ecode a essayé de montrer ça,
c'est pas notre débat du jour, mais c'est une réalité.
Vous voulez que je vous dise ce que c'est votre débat du jour ?
Il y a quand même une évaluation qui est quand même intéressante et que vous n'avez pas citée, c'est celle de la baisse de la fiscalité sur le capital à 30%. Et là on se rend compte que quoi ? C'est que ça rapporte 1 milliard de plus qu'avec l'ancien système où la fiscalité était plus lourde. Donc quand même, il y a cette idée que quand vous baissez les impôts, ça peut aussi vous rapporter plus. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant. Plus le classement de l'OCDE sorti cette semaine.
Sur l'attractivité ?
36e nation de l'OCDE sur 36 en matière de fiscalité. Donc, il y a quand même des progrès à faire en la matière.
Bon, vous inquiétez pas, on fera un autre débat. Hein. Ce matin,
il a encore dit n'importe quoi.
Il faut regarder la grimace de Christian Chavagneux. Je sais pas si c'est un animal. Sur l'immigration, on fait le débat avant le débat. En tout cas, sur le volet économique, pour avoir les idées claires, poursuivre les échanges lundi à l'Assemblée. Donc, discussion Chavagneux-Le Chypre. Et puis, reportage. Nos entreprises ont-elles besoin des immigrés ? Vous entendrez l'enquête d'Anaël Verzo. On va se retrouver, messieurs, dans une poignée de secondes. L'invité du Mag Écho, elle était hier encore au sommet de l'élevage où Emmanuel Macron a fait une visite impromptue. C'est la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Elle sera dans ce studio à 9h45. Et bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Véronique vous a écrit, comme beaucoup d'ailleurs, au sujet de la prochaine réforme des retraites.
Oui, elle a écouté Emmanuel Macron parler de la pénibilité. Véronique demande au fond, qu'est-ce qu'un métier pénible ? Peut-on mesurer la pénibilité ?
Ah, ça c'est au fond de la réforme, ouais, c'est vrai. Rendez-vous juste avant 10h, tout de suite, ce que disent donc les économistes dans ce débat sur l'immigration.
Ce sujet, personne ne l'a abordé. Et donc, il nous faut avoir beaucoup de méthodes, et je dirais ne pas avoir peur. D'abord parce que nous l'avons dit. Ensuite, parce que je pense que notre pays en a besoin. Nous n'avons pas le droit de ne pas le regarder en face. Et je vais vous dire de manière très simple pourquoi. Parce que le choix qui nous est posé, c'est de savoir si nous voulons être le parti bourgeois ou pas. Les bourgeois n'ont pas de problème avec ce phénomène, parce qu'ils ne les croisent pas. Les classes populaires vivent avec ça, parce qu'elles sont dans les quartiers où nous avons déjà, depuis 30 ans, échoué à intégrer, où nous avons déjà mis plus de populations primo-arrivantes, et où aujourd'hui, il y a le plus de MNA et de gens qui arrivent qui sont en situation de demander l'asile.
C'était le soir du 16 septembre, Emmanuel Macron devant les parlementaires de sa majorité, des paroles cash donc sur l'immigration. On vient d'entendre ce document de nos confrères de LCP, la chaîne parlementaire. Christian Chavagneux, comme toujours le spécialiste de la photo, les immigrés en France, qui sont-ils ?
Les immigrés,
combien sont-ils ?
La définition, c'est les gens qui sont nés à l'étranger et qui habitent en France, y compris s'ils ont pu recevoir la nationalité française. Donc au total, il y en a 6,5 millions, dont 2,5 millions à peu près qui ont la nationalité française. Ça fait à peu près 9,7% de la population française. Il faut dire qu'en 2000, c'était 7,5%. Donc oui, il y a plus d'immigrés en proportion de la population française aujourd'hui qu'hier. Vous regardez le nombre de titres de séjour alloués depuis en gros l'année 2005, ça a beaucoup progressé. Pourquoi ? Parce qu'on reçoit plus d'étudiants qui viennent à court terme, s'installer un an ou deux en France. Donc oui, il y a plus d'immigrés, mais c'est parce que les étudiants viennent. C'est pas le regroupement familial, le fait que vous avez le père qui est là et qui fait venir toute sa famille. Ça a baissé de 25% sur les 15 dernières années. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? D'où ils viennent ? Parce qu'en France, quand on dit un immigré, en gros, c'est un Africain du Nord ou un Africain d'Afrique subsaharienne, d'accord ? En fait, ces gens-là, c'est moins de la moitié des immigrés. L'Afrique du Nord, c'est 30%, le reste de l'Afrique, c'est 17%. Un tiers, en fait, des immigrés qui viennent en France, c'est des Européens. Et le reste, c'est des Asiatiques, essentiellement des Chinois. Puis un dernier élément, c'est les immigrés, en fait, ont un niveau d'éducation supérieur au niveau d'éducation de la France. Vous prenez alors les Roumains, par exemple, 37% des immigrés roumains ont fait des études supérieures. Et seulement 5% de ceux qui viennent n'ont pas d'éducation. Vous prenez les Sénégalais, 27% ont un niveau d'études supérieures et seulement 17% n'ont pas d'éducation. Il n'y a que les Algériens, 18% d'études supérieures, 18% sans éducation. Le reste, c'est entre les deux, bien sûr. Donc, c'est globalement des gens qui ont un niveau d'éducation supérieur aux Français.
Emmanuel Le Chypre.
Juste pour compléter, d'abord, où est-ce qu'ils vivent ? En fait, ils vivent globalement beaucoup plus dans les villes que dans les campagnes. 8 immigrés sur 10 résident dans les grands pôles urbains. Ils sont concentrés et de façon qui évolue assez peu au fil des années. Et donc, dans le débat qu'on a forcément autour de la compétition, entre guillemets, des Français dont parlait Emmanuel Macron, qui sont les ouvriers, etc., les gens plutôt pauvres, entre guillemets, qui se sentent concurrencés par les immigrés, il faut rappeler que les immigrés, ils vont là où il y a du travail. Et donc, considérer qu'il y a du chômage dans un endroit parce qu'il y a des immigrés qui viennent faire concurrence aux Français, c'est une absurdité économique. L'immigré, par définition, il n'est pas stupide, il va pas là où il n'y a pas d'emploi. Donc, ils vivent essentiellement en ville. Christian l'a dit, il y a toute une population d'immigrés qui est beaucoup plus diplômée que la population française. Les Chinois, les Vietnamiens, les Polonais, etc. Alors, il y a quand même, effectivement, parce qu'il ne faut pas le nier, c'est une partie du problème, une population immigrée qui est extrêmement non qualifiée, qui a quand même réussi à venir en France. Et là, on s'aperçoit que c'est moins de 1% de l'équivalent de la population française. C'est beaucoup des Marocains, Sénégalais, Turcs, etc. Mais c'est une population qui est quand même extrêmement concentrée et extrêmement réduite.
Là, on est en train de parler de l'immigration légale, on n'est pas en train de parler des sans-papiers ?
Ah bah non, parce que là, pour le coup, l'immigration de sans-papiers et tout ce qui est illégal, par définition, on n'en a pas une vision statistique extrêmement claire.
Ouais, on dit 300 000, 400 000 personnes.
C'est ce qui est admis, 300 000, 400 000 personnes.
Voilà, sur 6,5 millions d'immigrés, sur 67 millions de Français, donc c'est vraiment rien du tout.
Et rappelons que la France n'est pas du tout un pays ouvert à tous les vents, il faut le redire. Par rapport à tous les autres grands pays européens, la France accueille moins d'immigrés que les autres pays.
C'est ce que disait François Héran, l'invité de la matinale également.
Oui, on est autour de 250 000, 260 000 entrées par an, c'est trois fois moins que l'Allemagne. Le Royaume-Uni, on est à 350 000. Et si vous prenez, rapporté au nombre d'habitants, les immigrés, c'est en France deux fois moins que la moyenne de l'OCDE. Donc, ouais, on n'est pas un pays qui accueille comme ça massivement toute la misère du monde.
Christian Chavagneux, ce lien entre les classes populaires et les immigrés, Emmanuel a commencé à en parler. Oui. C'est au cœur de ce que disait Emmanuel Macron.
Hein. C'est Emmanuel Le Chip qui a raison, pas Emmanuel Macron.
Emmanuel, il faut se souvenir de ce moment.
Les immigrés, Emmanuel l'a dit, ils vont là où il y a du travail. Il faut savoir qu'il y a déjà il y a à peu près 5 millions d'emplois aujourd'hui qui sont interdits aux étrangers. Donc ils vont là où on leur permet d'aller. Par exemple, dans la fonction publique, vous avez plein de postes qui sont interdits aux immigrés. Alors, dans la police, il y a des fois la défense ou les services secrets, vous dites, ok, peut-être que ça peut justifier. Mais il y a beaucoup de postes, y compris dans le privé, par exemple, tenir un tabac. Tenir un débit de boisson, c'est interdit aux immigrés. Aux gens qui sont pas nés en France, on se demande bien pour détective privé. On se demande bien pourquoi c'est interdit à un étranger d'être détective privé ou de pouvoir avoir de tenir un débit de boisson. Et en fait, c'est pour ça aussi que les immigrés, quelque part, sont surreprésentés dans les travaux non qualifiés. C'est qu'il y a beaucoup de postes qualifiés. Alors qu'on l'a dit avec Emmanuel, ils ont des diplômes, mais ils n'ont pas le droit d'y accéder.
Emmanuel Le Chypre, est-ce que la France, alors vous avez dit, elle n'attire pas toute la misère du monde, mais il y a cette idée que des immigrés feraient leur marché, viendraient pour notre modèle social. Que disent les économistes là-dessus? C'est quand même un sujet de discussion, il faut l'aborder.
C'est un sujet de discussion parce qu'il y a des cas, effectivement. Il faut pas nier que vous avez beaucoup de remontées de tous les centres d'accueil aux frontières. Prenez ce que disent les centres d'accueil en Alsace, etc. Oui, il y a des immigrés qui viennent en France en partie pour se faire soigner, notamment. Mais quand vous regardez quand même les conditions d'accès au système social français, c'est un parcours du combattant incroyable. C'est-à-dire qu'il vous faut plus de papiers presque quand vous êtes immigré ou quand vous êtes même clandestin et non régulier pour pouvoir bénéficier des droits. Si vous voulez par exemple toucher le RSA, vous ne l'obtenez qu'au bout de 5 années de séjour régulier en France. Si vous voulez le minimum vieillesse, il faut être en France depuis 10 ans. Et puis alors cette fameuse aide médicale d'État qui suscite tous les délires, c'est 1 milliard effectivement. Alors il faut rappeler qu'au départ on l'a mise en place pour éviter que tous ces gens qui viennent avec des maladies peut-être contagieuses comme la tuberculose ne contamine les populations locales, donc c'est premièrement sanitaire, et deux, vous ne l'obtenez que pour un an, vous l'obtenez sur dossier, vous l'obtenez sur conditions de ressources, vous n'êtes remboursé qu'au tarif de la Sécu. Ce qui est vrai, c'est que par rapport aux autres pays étrangers, on a un panier de soins dans l'AME qui est plus large et plus important que ce que font des pays voisins comme l'Espagne ou comme le Royaume-Uni. Donc il y a des gens qui viennent pour ça, mais encore une fois, remettons les choses à leur échelle, c'est moins d'un milliard d'euros. Si c'était le seul problème qu'on avait à résoudre pour remettre notre système santé d'aplomb, et ce serait déjà formidable.
Je veux juste insister sur ce qu'a dit Emmanuel, l'aide médicale d'État, c'est réservé aux immigrés en situation irrégulière. C'est pour ça que ça fait un peu débat, mais il y a une chercheuse qui a regardé, travaillé spécifiquement sur ces gens qui reçoivent l'AME, et elle nous dit quoi? Elle nous dit que 90% de ceux à qui on a diagnostiqué le sida ont découvert leur maladie en France, donc ça permet d'éviter que ces gens soient malades. Ils ne sont pas venus parce qu'ils avaient le sida pour se faire soigner en France et bénéficier de notre système social. C'est grâce à l'AME qu'on a pu le savoir en France. La réduction de l'AME, ça réduirait les soins préventifs et donc on aurait des gens encore plus malades. Et puis enfin, pourquoi est-ce qu'on le sait et pourquoi on a le débat? C'est parce que la France, dans les autres pays européens, on est le seul à avoir une ligne budgétaire qui est spéciale immigré clandestin ou spéciale immigré en situation régulière. Dans les autres pays, il y a sûrement aussi beaucoup de dépenses, sauf que comme il n'y a pas la ligne budgétaire, on regarde
moins. Vous pensez que
c'est pas beaucoup plus pour eux, c'est 2700 euros par an pour un Français, c'est 2300 euros pour la santé. Et il faut rappeler que plus globalement, la contribution des immigrés à la protection sociale en France, elle est positive. C'est-à-dire qu'en gros,
ça dépend des années.
Alors, ça dépend des années.
Soit elle est positive, soit elle est négative. En tout cas, les chercheurs nous disent tous la même chose. C'est tout petit, c'est ridicule, c'est insignifiant.
Sur ce que ça pèse sur les comptes santé, c'est ça que vous êtes en train de dire.
Sur le budget en général.
Sauf que les projections qui sont faites dans les années à venir. Et par exemple, si on arrêtait l'immigration, ça coûterait 2 points de PIB à l'horizon des 50 prochaines années.
Emmanuel, 2 points de PIB, là, les gens, ça y est,
ça fait 40 milliards par an. C'est-à-dire que le déficit de la Sécu, vous le connaissez, 40 milliards par an d'ici les 30 prochaines années en moins pour la protection sociale. Si on arrêtait l'immigration, en 2100, c'est le double, 80 à 100 milliards.
Pourquoi ça? Parce qu'ils cotisent.
Parce qu'ils viennent, ils sont jeunes, ils sont diplômés. diplômés, ils cotisent et quand ils sont à la retraite, ils retournent dans leur pays, ce qui fait qu'on ne leur paye pas leur retraite. Donc ils fournissent des contributions et ils en retirent moins. Donc voilà, c'est plutôt un aspect plutôt positif.
Donc on peut-on dire, est-ce qu'on a une réponse simple à, est-ce que les immigrés sont plus un coût, une ressource pour notre économie?
Sur le marché du travail, tous les économistes nous disent qu'il n'y a pas d'effet négatif, ils ne tirent pas les salaires vers le bas. Et ils ne prennent pas non plus les postes des immigrés qui sont arrivés avant eux. Parce qu'on pourrait dire les nouveaux immigrés prennent le travail des anciens immigrés. Non, des deux côtés, ce n'est pas vrai. Sur le PIB, les familles, en fait, quand elles sont en France d'immigrés, elles dépensent, comme elles sont peu payées, pour, comme la majorité, malheureusement, des emplois auxquels ils peuvent attribuer, essayer d'obtenir, c'est des postes non qualifiés, ne sont pas beaucoup payés, ils n'épargnent pas, ils dépensent tout sur place. Donc ça fait du bien à la croissance. Et en plus, en occupant les emplois non qualifiés, ça libère le travail des femmes françaises qualifiées qui contribuent aussi à la croissance. Donc tout est plutôt positif. Il y a un apport en fait en capital humain de la part des immigrés qui nous aide à booster la croissance. Marché du travail, pas d'effet négatif. Sur le budget et la sécurité sociale, pas d'effet négatif. Sur le PIB, plutôt un effet positif. Donc voilà, c'est contrairement à ce que pensent les Français, l'immigration est un apport pour l'économie française et on est sidéré quand on demande aux gens « Vous pensez qu'il y a combien d'immigrés en France ?» Ils pensent que les immigrés, c'est 27% de la population française. Alors qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est moins de 10%.
Donc s'il y a cette perception, ça n'est en tout cas pas pour des raisons économiques
Exactement.
Qui seraient négatives.
Exactement.
C'est ce qu'on peut dire.
Tout à fait.
Voilà.
Ce que vous
Emmanuel
disent les économistes, c'est que, en fait, quand sur les postes, qui sont substituables au poste des immigrés, il y a parfois un peu de concurrence. Alors moi, j'ai pas tout à fait les mêmes chiffres sur notamment les anciennes générations d'immigrés. Moi, j'avais des chiffres qui montraient qu'ils concurrençaient un peu. Mais par contre, pour les gens avec qui ils sont complémentaires, là, ça profite. Et effectivement, et donc vous avez des
Attendez, c'est qui les gens avec qui ils sont complémentaires?
Par exemple, des gens avec qui ils ne viennent pas en concurrence, mais qui font des métiers qui fait que globalement l'activité des deux est positive. Et prenez ce chiffre sur l'Espagne. Hein, en Espagne, il y a eu 3,3 millions d'immigrés qui sont arrivés au début des années 2000, et ça se traduit au final par une hausse du PIB par habitant de plus de 600 euros. Le seul problème, c'est quand vous avez des vrais chocs migratoires. C'est-à-dire que quand il se passe ce qui s'est passé en France, par exemple, avec les rapatriés d'Algérie en 62, ce qui s'est passé au Portugal avec les rapatriés d'Angola et du Mozambique, ce qui s'est passé en Turquie après l'arrivée des réfugiés syriens en 2012, par exemple. Et là, on voit que, oui, il y a des chocs qu'il faut absorber. Et ça, c'est compliqué.
Des chocs sur les comptes, des chocs peut-être sur le marché du travail. En tout cas, ce qui se passe aujourd'hui avec les immigrés sur le marché du travail, on va aller regarder sur le terrain. Venez, on sort du studio.
Bonjour, Jeanne Massa, je suis la présidente de Habiteo, une start-up dans la PropTech. La PropTech, ce n'est pas de la propreté, c'est toutes les nouvelles technologies dans l'immobilier.
Alors, si j'ai bien compris, vous avez recruté récemment une ou plusieurs salariés étrangères.
Oui, nous avons plusieurs salariés étrangers. Yeliza est colombienne, j'ai une jeune fille qui est de la République dominicaine, j'ai un Mauricien qui arrive bientôt dans nos équipes. On est une jeune entreprise et on a peu de moyens. Donc, on va surtout essayer de chercher des talents dès la sortie des écoles. Je vais vous parler d'Yeliza, qu'on a embauchée, qui est colombienne, qui est venue faire un stage chez nous, qui est effectivement ingénieure à la base. Elle codait, c'est pour ça qu'on l'a pris. Et puis, elle ne rechignait pas à des tâches qui sont moins intéressantes pour certains issus d'écoles en France, qui est de simplement recéter. Et recéter, c'est faire des tests continus, etc.
Et donc, vous êtes dit peut-être que quelqu'un de français sorti d'école aurait refusé, rechigné un peu à le faire. Il dit, c'est des tâches.
On a cherché. C'est un vrai petit talent, cette jeune femme. Et on s'est colombienne, et on s'est dit, on veut la garder.
L'immigration de travail, voilà de quoi nous parlons. D'étrangers qui ne viennent pas de l'Union européenne et qui entrent en France pour occuper un emploi, il va leur falloir obtenir une autorisation. En France, cette immigration économique, elle stagne à un niveau faible. En 2017, ça représentait moins de 11% des nouveaux entrants. On est loin des grandes vagues de recrutement des 30 glorieuses. Le choc pétrolier a radicalement changé la politique avec cette idée que désormais les entreprises françaises n'ont plus vraiment besoin de travailleurs immigrés. Bien sûr, ça n'est pas aussi simple et depuis les années 2000, on a vu ressurgir cette idée d'une immigration choisie. Alors que vivent les entreprises? Nous retournons dans la start-up de PropTech, vous avez retenu, ça n'est pas de la propreté, avec notre reporter Anaël Verzo.
Est-ce que ça a été difficile administrativement parlant? Comme vous êtes considérée comme une start-up,
oui.
Normalement vous avez des facilités pour pouvoir embaucher des personnes étrangères.
Oui, le French Tech Visa, et effectivement, normalement, doit nous faciliter le dépôt des dossiers en préfecture et la possibilité de recruter des talents étrangers.
Et vous alors ?
On rentre totalement dans ce cadre-là, mais on n'a pas pu en bénéficier.
Ah bon ? Alors, là, il va falloir nous expliquer.
Pourquoi ? Parce que, eh bien, c'est à partir d'un certain niveau de salaire. On est une jeune entreprise, on a été capté une personne au sorti de l'école. En sortant de stage, je suis désolée, je passe pas sur un salaire qui est deux fois et plus le SMIC. Donc, je pars d'un salaire plus bas. Je n'ai pas les moyens
de la payer. 2 500 euros, c'est ça, 3 000,
c'est combien ? De la payer un peu plus, c'est 37 000 à l'année, brut. Donc, vous mettez les charges par-dessus. Pour une entreprise telle que la nôtre, ça devient un poste important.
D'accord, donc en fait, c'est un système, d'après ce que je comprends, qui est pensé pour des personnes qui ont déjà une carrière à l'étranger.
Qui ont déjà une carrière à l'étranger, totalement. Sur Yelitza, on a présenté
donc la jeune Colombienne que vous avez finalement recrutée.
Que nous avons finalement recrutée. On a présenté une première fois son dossier en préfecture. Effectivement, on était en dessous du seuil du French Tech Visa, donc on est passé par la procédure normale. On ne s'est pas fait accompagner par un avocat. Son dossier a été rejeté. Tout simplement en nous disant, il faut que vous cherchiez des personnes en France. Nous, on a perdu 6 mois sur ce produit parce qu'elle est rentrée chez elle, en Colombie. On a reconstruit le dossier. Aujourd'hui, elle est ici, elle est installée 4 bureaux plus loin. Et elle est en CDI et je suis heureuse qu'on ait réussi à la faire venir.
Et comment vous avez fait finalement ? Vous avez donc reproposé le dossier en préfecture ?
On a reproposé le dossier en préfecture. On avait vu beaucoup de profils français. Et en fait, on ne trouvait pas ce profil-là. Et finalement, on a réussi à l'obtenir. Mais ça a été long et nous, on a perdu 6 mois. Et donc, il faut en avoir les moyens pour dire j'investis sur quelqu'un.
Les démarches s'allongent lorsqu'il s'agit des personnes les moins qualifiées qui ne peuvent pas prétendre au passeport talent ou des emplois qui ne font pas partie de la liste des 30 métiers dits en tension, répertoriés en 2008. Alexandre Gilioun est avocat au barreau de Lyon en droit des étrangers. Cette année, il a défendu 70 dossiers de demande d'autorisation de travail déposés par des PME ou des immigrés.
Donc la personne arrive au guichet, elle dépose son dossier et ensuite son dossier est transmis à la directe d'une autre administration. Déjà, il faut compter un certain temps pour que ce dossier soit transmis. Après, le dossier va repartir à la préfecture. Donc après, la préfecture va encore prendre une deuxième décision et à l'issue de cette seconde instruction, elle rend sa décision.
Ça peut être plusieurs mois d'attente ?
Alors, pour une personne qui demandait sa régularisation, c'est 1 an pratiquement.
1 an ?
Oui. Donc, pour l'employeur, ce qui va être compliqué, c'est déjà d'employer la personne pendant cette durée-là.
Voilà pour les chefs d'entreprise qui veulent recruter un non-européen en respectant la loi. Ensuite, dans le paysage, il y a aussi ceux qui ont recours au travail au noir. J'ai rencontré Amadou Fofana, qui a travaillé pour un sous-traitant de Chronopost. Je me trouve à Paris, devant le siège du groupe La Poste. Là, il y a un rassemblement des sans-papiers qui travaillent à Chronopost. Comment vous vous appelez ?
Moi, Fofana Amadou.
Vous avez quel âge ?
26 ans.
Ça fait longtemps que vous êtes en France ?
Fin 2017, je suis venu.
Et vous venez de quel pays ?
Mali.
Aujourd'hui, vous travaillez où ? Vous travaillez dans quelle entreprise en France ?
J'ai travaillé à Chronopost, mais on a décidé d'arrêter les boulots maintenant.
Mais vous avez travaillé combien de temps ?
Moi, je travaille là-bas 4 mois.
Qu'est-ce que vous faisiez là-bas ?
On faisait le tri et le déchargement.
C'était un travail qui vous prenait combien de temps ? C'était de quelle heure à quelle heure tous les jours ?
Souvent, ça dépend. On commence à 4h du matin jusqu'à 7h30. Mais quand il y a beaucoup d'activités, on commence à 3h. On fait des exercices, quoi. Tant qu'on n'a pas fini aussi, on ne peut pas laisser. On continue toujours. Voilà.
Alors, est-ce que le travail que vous faites, que vous avez fait, c'est un travail que des Français auraient pu faire d'après vous ?
Moi, je suis
Est-ce que j'aurais pu faire le travail que vous avez fait ?
Même si tu aurais pu faire, tu ne vas pas accepter de les faire. Parce que c'est dur. Nous, on fait des exercices, puis ils ne payent pas. Une fois qu'on commence, même s'il est 7h30, tant qu'on n'a pas fini, on ne peut pas laisser les boulots. Donc, tout ce qu'on va rajouter là, c'est des exercices. Mais ils ne payent pas. En tant que Français, est-ce qu'il va accepter des travaux comme ça ?
Parce que vous étiez payé combien au final ?
600-500 euros par mois.
Donc, vous vous dites, moi, je suis là, je suis utile.
Oui.
Parce que je fais le travail que des Français ne pourraient pas faire, ne veulent pas faire.
Mais même dans le tunnel des métros, il faut aller là-bas. Les gens qui sont en train de faire les boulots, ce sont des noirs. C'est les sans-papiers aussi. Même les travaux publics, des bâtiments et autres là. Si tu pars là-bas, les travaux les plus durs, c'est les sans-papiers qui vont les faire.
Pourquoi des entreprises recrutent-elles des étrangers ? Pour répondre, il faut observer les secteurs les plus concernés.
Jean-Christophe Dumont est chef de division des migrations internationales à l'OCDE.
L'immigration est relativement faible en France, mais elle est concentrée dans certains secteurs. L'immigration joue aux deux extrémités du marché du travail, dans les professions qui sont en forte croissance, parce qu'il y a des besoins.
Vous pensez à quel métier ?
Par exemple dans le secteur de la santé, par exemple aux services domestiques, par exemple en ce qui concerne les services de sécurité. Si on retrouve une surreprésentation de l'emploi immigré dans des secteurs qui sont très soumis à la conjoncture économique.
Par exemple le bâtiment.
Comme dans la plupart des autres pays de l'OCDE, effectivement, l'immigration joue un rôle important dans ce secteur. L'immigration joue aussi un rôle dans l'emploi saisonnier. L'hôtellerie-restauration. En même temps, les immigrés contribuent, et c'est un peu paradoxal, aux professions qui sont en déclin. Par exemple, dans les métiers de la métallurgie, et peut-être des métiers moins qualifiés de la manutention. Les jeunes qui rentrent sur le marché du travail voient ces métiers comme étant peu attractifs, comme ayant peu de perspectives d'avenir. Donc même dans une situation où on a un chômage structurel important, l'immigration peut apporter un petit peu d'huile dans les rouages du marché du travail. Et encore une fois, cette immigration doit être pilotée.
Quelles sont vos préconisations ?
D'harmoniser les règles sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En second lieu, il y a en France une liste des métiers dits en tension, métiers pour lesquels le test du marché du travail n'est pas requis. Cette liste de métiers a été créée en 2008 sur la base de 30 métiers déclinés au niveau régional. Elle n'a pas été mise à jour
depuis 2008. Alors, il y a des nouveaux métiers, des métiers qui sont plus en tension aujourd'hui qu'ils étaient à l'époque.
Exactement, seuls 15% des métiers dans cette liste sont toujours en tension. Il va falloir qu'on l'actualise régulièrement en consultation avec les partenaires sociaux, les syndicats et les employeurs.
Et si on regarde en arrière, que nous dit l'histoire des relations des besoins en main-d'œuvre étrangère ? Je suis allée voir le démographe Hervé Lebras. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous Hervé Lebras, si notre économie a besoin des immigrés ?
Oui, elle en a d'ailleurs toujours eu besoin. Elle en a eu besoin parce que certains postes ne sont pas remplis, même quand il y a un chômage important. Et ces postes ne sont pas remplis pour des raisons que non seulement les Français ne sont pas formés, mais souvent aussi parce que c'est des travaux plus difficiles ou des travaux plus risqués. Et à ce moment-là, les patrons, les entrepreneurs font pression pour qu'on fasse venir une main-d'œuvre étrangère. Très très nettement, tout au long de l'histoire, les patrons et les entrepreneurs ont toujours été pour l'ouverture des frontières, ce qui est paradoxal puisqu'ils sont plutôt rangés à droite.
D'après vous, est-ce qu'il faut qu'on maintienne le fonctionnement actuel ou est-ce qu'il y a quelque chose à modifier pour que ça fonctionne mieux ?
Non, il faut modifier. Je pense que c'est de ce point de vue-là, Macron a plutôt raison. Il faut modifier le fonctionnement du droit d'asile. C'est très clairement, il ne correspond plus à ce qu'il étiquette. Au tout début, c'est quand même les personnes qui sont persécutées dans leur pays. Or, il y a quand même un certain nombre de ces demandes d'asile qui sont des demandes de travail déguisées. C'est ça tout le problème. C'est donc là qu'il y a quelque chose à trouver qui n'est pas simple.
Est-ce que selon vous, l'idée de quota serait une bonne idée ou...
Non, c'est une très mauvaise idée. Et là, je peux le dire en quelque sorte avec des références, parce que j'étais membre de la commission Mazot qui, sous Sarkozy, s'était occupé de cette question et unanimement, après beaucoup d'auditions, la commission a rendu un rapport en expliquant que les quotas n'étaient pas une solution pour un grand nombre de raisons. C'est très difficile d'estimer, même à moyen terme, les besoins de main-d'œuvre. Donc il vaut mieux laisser une certaine latitude aux initiatives individuelles.
Nos entreprises ont-elles besoin des immigrés ? C'était le reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Emmanuel Lechypre, je me tourne vers vous pour la conclusion de ce débat immigration. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même à améliorer ? Vous avez mis les chiffres en face de nos oreilles, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ?
Ce que montrent les économistes, c'est qu'on n'a pas, c'est pas un problème macroéconomique l'immigration. Plus vous avez d'immigrés, plus ça fait plus c'est des bouches à nourrir, plus c'est de consommation, plus c'est de croissance, et plus vous avez de bras pour travailler. Et le marché du travail, il est extensible, donc c'est pas une quantité de travail limitée. Donc ça, l'impact macroéconomique, il est pas questionnable, il est plutôt positif. Le vrai problème, c'est un problème d'intégration et un problème d'inclusion. mais qui concerne tous les laissés pour compte en France, tous les gens qui sont effectivement ces catégories sociales qu'on n'arrive pas à faire progresser. Ça, c'est le grand défi, mais qui ne concerne pas que les immigrés. C'est le grand défi de l'inclusion. La meilleure preuve, pour terminer, c'est que cette peur de l'immigré, elle n'existe que dans les régions où il n'y a pas d'immigrés. Hein, je vous rappelle que toutes les régions qui votent Front National, ce sont des régions où il n'y a pas d'immigrés, ou beaucoup moins que dans le reste du pays.
Christian Chavagneux.
Juste pour dire qu'on surestime gravement l'attractivité de la France. Les immigrés, lorsqu'ils quittent leur pays, lorsqu'ils quittent leur territoire, viennent pas majoritairement en France. À chaque fois qu'il y a des grandes crises, la guerre de Syrie, mais avant c'était la guerre du Kosovo, mais avant c'était l'ex-Yougoslavie, eh bien ils vont principalement en Allemagne. L'Allemagne accueille 5 à 6 fois plus, plutôt la France
parce accueille 5 porte, à 8 qu'elle a un problème
fois
de
moins
démographie.
D'immigrés que l'Allemagne. Donc on n'est pas du tout un pays attractif pour les immigrés.
Emmanuel Lechypre et Christian Chavagneux, merci à vous les débatteurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À venir, notre invitée Christiane Lambert, la patronne des agriculteurs de la FNSEA. Mais on reste encore un peu sur l'actualité cette semaine. Encore une fois, c'est Donald Trump qui l'a créé, une nouvelle escalade sur le commerce entre les États-Unis et l'Union européenne.
The WTO has been much better to us since I've been president because they understand they can't get away with what they've been getting away with for so many years, which is ripping off the United States.
Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Inter aux États-Unis. Donc cette semaine, on a un rebondissement dans la bataille aéronautique, Airbus contre Boeing. Et voilà donc des surtaxes annoncées par Donald Trump sur les avions, ça c'est normal, mais aussi sur des victimes collatérales, les outils allemands, les olives espagnoles, le vin et le fromage français vraisemblablement. Grégory, est-ce qu'on peut dire qu'entre les États-Unis et l'Europe, la guerre est déclarée ?
Alors écoutez, Robert Lighthizer, le représentant américain au commerce, c'est pas un idéologue, c'est un pragmatique, et clairement il laisse entendre que la porte n'est pas encore complètement fermée. Ça peut encore négocier jusqu'au 18 octobre, date prévue pour l'entrée en vigueur de ces sanctions, et il invite d'ailleurs les Européens à discuter. Donc pour répondre à votre question, non, on n'est pas encore complètement en guerre commerciale, même si évidemment il y a cette liste de produits qui risque d'être affectée à 10 ou 25%. Vous savez, les sanctions économiques, c'est, si je puis dire, l'arme favorite du président Trump, qui a deux jours parlé de grandes victoires pour les États-Unis. Pour lui, là, c'est assez facile en vérité de décréter ses tarifs contre ses produits parce qu'il le fait avec le feu vert de l'OMC.
Et vous qui suivez Trump, le négociateur depuis 3 ans, au fond, le président américain, il n'a qu'une boussole, c'est la balance commerciale. Combien je t'achète et combien tu m'achètes ?
Oui, c'est vraiment ça le nœud du problème. Vous savez, on vient d'avoir les chiffres de la balance commerciale pour le mois d'août. Le déficit commercial américain, c'est 54,9 milliards de dollars. Certes, les exportations augmentent, mais les importations aussi, à un rythme plus rapide. Et puis si on regarde avec l'Europe, eh bien c'est la même chose avec l'Union européenne. Le déficit commercial américain a progressé de 23%. C'est ça qui fait dire à Trump régulièrement que l'Union européenne tire avantage des États-Unis. Parfois, il le dit même avec des termes un peu plus tranchés. Il parle d'escroquerie de la part des Européens. Et puis vous savez, Alexandra, enfin, pour le locataire de la Maison Blanche, il y a une priorité, c'est America first, l'Amérique d'abord, comprenez l'intérêt des Américains, et c'est encore plus vrai alors qu'on est à moins de 400 jours de la prochaine présidentielle.
Grégory Phillips avec nous depuis Washington.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bonjour Christiane Lambert.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du syndicat agricole, la FNSEA. L'agriculture victime collatérale de ce conflit sur l'aéronautique entre les États-Unis et l'Europe, est-ce que cette menace est grave ?
Oui, parce que ça impacte énormément certains secteurs, notamment le vin, pour lequel nous sommes très exportateurs. Monsieur Trump joue avec, il diabolise les choses, puisqu'il taxe beaucoup le vin français, il taxe les fromages italiens, pas les fromages français. Il essaye de faire la division au sein de l'Union. Pour la France, c'est 306 millions d'euros de taxes supplémentaires. Donc c'est une vraie pénalisation pour nos exportations de vin qui étaient en plein essor vis-à-vis des États-Unis. Donc ils taxent où ça fait mal.
Vous revenez du salon de l'élevage, vous avez évidemment croisé les agriculteurs. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une menace, un souci qui s'ajoute à d'autres ? Quel est l'état d'esprit aujourd'hui ?
Disons que le sommet de l'élevage est davantage consacré à l'élevage qu'au vin, mais malgré tout, les agriculteurs vis-à-vis des accords commerciaux affichent pas mal d'inquiétudes. Pourquoi ? Parce que nous avons en France des conditions de production, une sécurité sanitaire, alimentaire, bien-être animal extrêmement élevée, et beaucoup de produits qui viennent d'ailleurs d'autres pays du monde n'ont pas du tout les mêmes garanties. Et d'ailleurs, nous disons beaucoup, n'importons pas l'alimentation que nous ne voulons pas. L'échange a été très vif avec le président de la République, notamment sur les échanges venant du Canada, le fameux accord CETA, où très clairement, les vaches au Canada mangent des farines animales, ce qui est interdit chez nous. Alors même si le président de la République essaye de faire des jeux de vocabulaire en disant ce ne sont pas des farines animales, ce sont des PAT, des protéines animales transformées, faut pas nous prendre pour des lapins de 6 semaines, on a vite compris que c'était une façon d'essayer de lisser les choses. Moi, je vais vous donner 3 chiffres. Allez-y. En France, un élevage moyen, c'est 60 vaches. Au Canada, 10 000 bovins dans 60% des élevages. Donc, c'est pas du tout la même échelle. 80% d'herbes dans l'alimentation de nos troupeaux, 80% de maïs OGM au Canada. Et 90% de l'alimentation en France est faite sur la ferme par l'agriculteur lui-même, alors que c'est pas du tout la même chose au Canada. Rajouter à cela 46 substances interdites chez nous, autorisées là-bas, c'est pas du tout la même alimentation. Donc les agriculteurs se sentent piégés, et les consommateurs aussi, qui nous soutiennent sur ce sujet.
Et cet accord sur le libre-échange avec le Canada, le CETA, il est passé à l'Assemblée nationale, il doit passer dans les prochains jours au Sénat, qu'est-ce que vous attendez ?
Les sénateurs ont une approche plus pragmatique, ils sentent bien que l'agriculture est extrêmement inquiète, alors notamment le secteur de la viande. Parce que, bien sûr, M. Macron nous a rappelé que c'était positif pour le lait. Ah oui, nous vendions du Brie pour, grosso modo, 500 000 euros. On est passé à 1,6 million. Si, pour vendre un peu plus de Brie, un peu plus de champagne, on sacrifie le secteur de la viande, qui, lui, par contre, tient les territoires. Lorsqu'il y a des espaces herbagés, la montagne, les estives, le bocage, comme dans ma région, s'il n'y a pas d'herbivores, il n'y a plus ces territoires-là. Donc les sénateurs qui sont attachés au territoire ne voteront pas, je pense, la ratification. Le dernier mot revient à l'Assemblée, nous le savons. Malgré tout, c'est quand même une alerte et une interpellation des consommateurs. Monsieur Macron n'aurait pas pris la décision qu'il a prise sur le Mercosur s'il n'y avait pas eu un débat aussi difficile sur le CETA, notamment au sein de sa majorité, qui s'est éclatée sur le vote du CETA. Jamais il y a eu 9 votes contre dans un groupe La République En Marche sur aucun scrutin.
Vous revenez, on l'a dit, du sommet de l'élevage. Emmanuel Macron a fait une visite hier matin. Il a été accueilli comment ?
Bon, il a été accueilli poliment parce que les agriculteurs s'adressent au président de la République. Un président qui vient dire « je vous aime », on est habitué.
Il vous a dit « je serai à vos côtés ».
Oui, quel président ne nous a pas dit ça ? Quel président ne nous a pas dit ça ? Par contre, il a aussi été interpellé. Aidez-nous. Voulez-vous encore des agriculteurs en France ? Arrêtez vos décisions à l'émotion. Prenez des décisions fondées sur le scientifique, que ce soit sur le bien-être animal, que ce soit sur les produits phytosanitaires, débat très fort en ce moment. Donc il y a bien sûr une déambulation où il voit des animaux et les gens sont contents de croiser le président de la République. Par contre, c'était aidez-nous, on n'y croit plus, on se fait critiquer, l'agriculture est très critiquée. Vous avez vu la une du Point cette semaine. Les agriculteurs sont-ils des pestiférés ? On n'a jamais connu ça. Moi, je vois les gendarmes manifester contre le police bashing, les pompiers manifester contre le caillassage. Le food bashing va bon train, mais qu'est-ce que c'est que ce pays où il n'y a plus du tout de vivre ensemble, que les gens se respectent, les agriculteurs produisent l'alimentation, c'est difficile, c'est même parfois très compliqué, vous voyez ce qui se passe à Rouen, c'est un métier qui est devenu plus complexe, où l'environnement joue un rôle important, le sanitaire aussi, et il y a trop de phrases faciles en disant « yaka yaka ».
Voilà, c'est-à-dire que vous êtes en train de dire aux Français, mais vous ne savez pas, si, vous ne connaissez pas l'agriculture,
pas
laissez-nous faire le boulot.
L'agriculture a changé, elle est plus complexe, mais... Quand je vois, par exemple, Ségolène Royal affirmer hier matin chez Bourdin, une femme sur 10 a un cancer du sein, c'est les pesticides, immédiatement démenti par Axel Kahn, scientifique. Donc je crois qu'il y a des idéologues qui véhiculent des idées, qui brandissent des peurs pour une finalité, et ils disent beaucoup de choses fausses, de fake news, ce qui trouble la lisibilité par les Français. Que les Français aient une meilleure alimentation, moi ça me réjouit,
mais
tant mieux.
Quand même, Christiane Lambert, les Français ont, ça c'est un fait, c'est pas une fake news, du glyphosate dans les urines. Est-ce que vous comprenez, là on a une consultation sur les pesticides qui vient de se conclure, certains Français estiment que la distance de 5 à 10 mètres entre l'épandage et les habitations, ça ne va pas les protéger. Vous comprenez leurs craintes ?
Moi, je comprends les craintes lorsqu'elles sont fondées. Alors, les Français ont fait des analyses, ceux qui ont fait des analyses ont du glyphosate dans les urines. Comme par hasard, tous les agriculteurs et autres personnes qui font des analyses, 18 dans le Morbihan, je l'ai moi-même faite, 0 glyphosate. Pourtant, j'habite à la campagne, au milieu des champs. Donc, aujourd'hui, il y a polémique sur le type d'analyse qu'ils ont faite. Soyons sérieux. Et voilà, première chose.
Vous mettez en doute l'analyse, ok.
Ah bah oui, puisqu'il y a débat sur 2 analyses qui ont été faites. Si on choisit la bonne, on est sûr de trouver des traces, l'autre non. Mais bon, c'est un débat de scientifiques. Enfin, il y a eu beaucoup d'exagérations sur le sujet. Moi, je comprends l'inquiétude. Et nous, notre priorité, c'est de pouvoir faire notre métier d'agriculteur, cohabiter avec nos voisins. Dans 95% des cas, ça se passe très bien. Et puis, il y a eu une polémisation pour dire il faut 150 mètres pour protéger. Il n'y a aucune donnée scientifique qui prouve que 150 mètres est la bonne distance. D'ailleurs, le directeur de l'ANSES l'a lui-même rappelé, il faut faire confiance aux scientifiques. Et moi, je pense que ce ne sont pas les distances qui régleront le problème, mais davantage des pratiques. Depuis 2015, en France, nous mettons en œuvre des mesures pour protéger les écoles, les EHPAD et tous les lieux qui accueillent ce qu'on appelle du public sensible. Qu'on puisse extrapoler et l'appliquer davantage pour nos riverains, oui, mais ce n'est pas des distances, c'est davantage des pratiques, des horaires, des outils de protection, des équipements particuliers. Il ne faut pas rentrer dans l'excès tout de suite. Et puis, qu'est-ce que vont devenir ces surfaces si on enlève 15% de surface ou même 5% de surface aux agriculteurs? Qui va prendre en charge? Il n'y a rien de prévu pour ça. Donc je pense qu'il faut aborder le sujet dans son ensemble. En tout cas, nous nous sommes prêts à débattre, mais sur des données fiables et scientifiques.
Est-ce que vous diriez qu'il y a un divorce entre les agriculteurs et la population?
Certains essayent de l'entretenir et moi je le combats. Je souhaite davantage de dialogue et nous voulons vraiment parler plus d'alimentation. Aujourd'hui, les Français demandent de l'agriculture biologique. Nous sommes autonomes à 70%. On peut faire mieux. Les Français veulent de l'environnement. Les agriculteurs sont des producteurs de biodiversité. L'élevage en France préserve, les élevages captent du carbone. Nous savons produire des biocarburants. Bref, nous apportons 14% des emplois. Nous sommes un secteur extrêmement contributif, mais qui en ce moment connaît des difficultés. Donc, j'ai demandé un rendez-vous à M. Macron sur le pacte productif dans les 15 jours qui viennent.
Ce qui devait améliorer ces difficultés, enfin la situation pour les agriculteurs, c'était la loi alimentation, hein, cette loi qui régissait des nouvelles relations entre les agriculteurs, les industriels et puis la grande distribution. Ça marche pas. Est-ce que c'était pas un peu naïf de croire que si on augmente le Nutella, ça va améliorer le sort du producteur de pommes?
Il faut dire que les grands distributeurs extrêmement concentrés aujourd'hui, puisqu'ils sont quatre, hein, on a 430 000 exploitations, 17 000 industries agroalimentaires, quatre centrales d'achat. Donc c'est une position extrêmement dominante. Ils ont des juristes remarquables. On a entendu dans un colloque avant-hier que le ruissellement allait davantage dans la poche des avocats que dans la poche des agriculteurs. Parce qu'ils ont trouvé tous les moyens pour contourner. Ils font plus les promos parce qu'ils ont moins le droit. Ils font des prix choc, des prix flash, qui sont à moins 70%.
Alors comment
on en sort ? Le seul secteur où ça a avancé, c'est le secteur laitier. Parce que c'est un secteur très sensible et avec une vraie fragilité pour les producteurs. Plus 1,4%, mais c'est moins 0,4% à moins 0,8% dans toutes les autres catégories de produits, épicerie, viande, etc. Donc ils n'ont pas joué le jeu. Mais entre nous, on peut pas changer 50 ans de politique de prix bas en un claquement de doigts et en une année. Donc nous, nous souhaitons que les outils persistent, qu'ils les appliquent, que l'État sanctionne davantage. Leclerc condamné à 117 millions d'euros, je pense que ça va en refroidir quelques-uns. Enfin, assigné, pas condamné, assigné. Sur le Nutella, Intermarché a négocié parce qu'il savait qu'il avait fait moins 70%. À l'amiable, il a payé 380 millions d'euros d'amende. Donc 380 000 euros d'amende, pardon.
Oui.
J'espère que ça va les dissuader. Mais on a là affaire à quelque chose d'invraisemblable.
Et vous voulez faire monter la pression.
On casse l'agriculture française et on va importer des produits venant d'ailleurs. C'est pas sérieux. Dans la restauration à domicile, 70% de la viande de poulet est importée. Nos enfants mangent n'importe quoi. Nos personnes hospitalisées aussi. Donc nous tirons la sonnette d'alarme.
Vous voulez faire monter la pression?
Oui.
Il y a un calendrier d'action. Mardi prochain, blocage des routes.
Oui. De 11h à 14h, nous allons bloquer les routes de France. Il y aura un autre mouvement le 22 octobre. Nous souhaitons qu'il y ait une prise de conscience de ce malaise agricole qui est économique, mais qui est aussi moral. Quand on produit l'alimentation, quand on se décarcasse pour évoluer et qu'on est autant sous-considéré, il y a un problème. L'agriculture brûle et nous regardons ailleurs. Nous voulons que nos dirigeants regardent davantage et mieux l'agriculture française.
Vous pensez que l'étincelle, là on sait que le gouvernement essaie de maintenir la paix sociale, il veut surtout pas un autre mouvement de gilets jaunes. Vous pensez que l'étincelle, ça peut venir du monde paysan?
En tout cas, il y a une exaspération qui monte depuis longtemps. Je l'ai dit X fois à nos dirigeants, ils n'ont pas voulu écouter. Les agriculteurs, cette fois, vont l'exprimer de façon très forte.
Dernière question, Christiane Lambert. L'usine Lubrizol, partie en fumée, des agriculteurs qui ne peuvent ni vendre ni récolter sur 2000 exploitations. Qu'est-ce que vous espérez ?
Plus de 2000, c'est 3000 exploitations aujourd'hui. Ils sont des victimes collatérales, zéro responsabilité. Ils doivent être indemnisés à l'euro l'euro. C'est 3 millions d'euros de perte de litres de lait. D'ici le 11 octobre,
parce qu'ils ne peuvent pas vendre.
Nous aurons les analyses. Bien sûr, la sécurité alimentaire prévaut. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, imaginez des agriculteurs qui se lèvent le matin, qui traient leur bovin, qui traient le soir et qui jettent le lait tous les jours. Psychologiquement, c'est extrêmement difficile. Les maraîchers qui ne vendent plus rien.
Ils vont être indemnisés, tous ces gens-là ?
Seuls les producteurs d'œufs qui ont des poules en bâtiment arrivent aujourd'hui à vendre leurs œufs, parce que toutes les poules qui sont en plein air, les œufs sont consignés. Voilà. Donc, alors nous, nous faisons tout pour qu'il soit indemnisé. L'usine elle-même doit prendre en charge. J'ai entendu que le patron commençait à être sensibilisé au drame que vivent les agriculteurs dans 5 départements. Il doit avoir un assureur. Et s'il n'en a pas, c'est l'État qui doit prendre le relais. Mais les agriculteurs ne doivent pas être de leur poche par rapport à cette pollution tout à fait extérieure à leur activité.
Christiane Lambert, la patronne de la FNSEA, merci d'avoir été sur France Inter.
Merci à vous.
Ma vie au boulot, Sandrine Foulon, au fond, qu'est-ce qu'un travail pénible? Ça, c'est la question de Véronique, qui a écouté, comme vous, Sandrine, Emmanuel Macron, qui était jeudi soir à Rodez, juste avant d'aller au sommet d'élevage, dans ce grand débat sur les retraites.
Moi, je n'adore pas le mot de pénibilité, a dit le chef de l'État, parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Oui, mais voilà, il faut bien appeler un chat, il y a des métiers pénibles. Ils sont définis par la loi. Quand un salarié est exposé à des facteurs de risque, comme travailler la nuit, sous des températures extrêmes, dans le bruit, de manière répétitive, il exerce un métier pénible. Il existe même un compte pénibilité voté sous le mandat de François Hollande. Il permet de demander une formation, de passer à temps partiel ou de partir plus tôt en retraite. Bon, il ne s'appelle plus comme ça. Le gouvernement actuel lui a préféré le mot prévention. Le compte professionnel de prévention, donc, a également été allégé à la demande du patronat qui n'aime pas non plus la pénibilité. 4 facteurs de risque ont été supprimés, comme le port de charges lourdes ou l'exposition aux agents chimiques dangereux. En compensation, les salariés exposés à ces risques et déclarés malades peuvent demander une retraite anticipée. À Rodez, le président a reconnu qu'il y avait des conditions de travail qui ne sont pas les mêmes et des risques qui ne sont pas les mêmes, mais pour l'instant, rien n'est prévu dans la réforme. Tout est ouvert à la discussion.
Oui, parce qu'on pense aussi aux infirmières, aux policiers et à tous ceux qui, dans leur bureau, peuvent trouver leur boulot très pénible, Sandrine.
Oui, c'est une autre forme de pénibilité. Celle dont je viens de parler a été définie par rapport à ses conséquences sur l'espérance de vie en bonne santé. Les profs peuvent avoir un métier très stressant, mais leur espérance de vie reste supérieure à celle d'un ouvrier. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille nier la souffrance mentale. Elle est bien réelle. Les enquêtes du ministère du Travail montrent que l'intensité du travail reste à des niveaux élevés. Depuis 20 ans, les cadences augmentent, les contrôles aussi, comme le sentiment de perdre en autonomie, en marge de manœuvre pour décider. Dans la lettre qu'elle a laissée, Christine Renon, la directrice d'école de Pantin qui s'est suicidée, parle de cette épouvantable fatigue, de la solitude, de l'abandon de son administration, de ne plus trop savoir ce qu'on a fait à la fin de la journée. Aujourd'hui, un salarié sur deux qui prend sa retraite ne travaille déjà plus. Beaucoup ont été licenciés pour inaptitude et vivent avec une pension d'invalidité ou une allocation adulte. Handicapés. Le boulot, oui, ça peut être usant, surtout après 50 ans. Avant de vouloir travailler plus longtemps, c'est un détail pénible à régler.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.